très librement inspiré d'un fait réel.
De toute façon, on va tous crever! Ah ouais, on va tous crever!
Sur le pont de Marcinelle, une silhouette invective les eaux noires de la Sambre.
Hein? T'en fous, toi, tu coules! Et tu couleras encore quand on sera tous crevés!
Sur le pavé souillé par la suie, quelques taches de lumière fauve percent l'obscurité autour des becs de gaz. Le corps de l'homme tangue. Il semble sur le point de tomber, mais il tient bon. Sur son visage, un masque de carnaval aux yeux exorbités. Les cheveux en crin de cheval blanc lui retombent sur les épaules. Le nez, long d'une dizaine de centimètres, figure un bec crochu. La bouche est ouverte en un cri silencieux rouge sombre. Des orbites brunes comme des cratères jaillissent deux globes au regard bleu suspendus par des fils de fer. Les sourcils, peints exagérément convexes et les rides sur le front, lui donnent l'air d'un vieillard hébété qui voit surgir le spectre sans visage de la mort. Il porte un tricot de corps blanchâtre couvert de sang et un pantalon noir. La nuit rapetisse et le silence figé de l'hiver se referme sur la ville, comme la banquise emprisonne un paquebot. L'abdomen de l'homme convulse, suivi d'un hoquet guttural. Un jet de vomi gicle de sous le masque et s'écoule dans son cou, puis sur son torse. L'odeur acide se mélange aux effluves charbonneux que la brise épaisse transporte depuis les terrils. Le masque crie encore.
« Ah ouais, on va tous crever ! Ah ouais !»
La bile lui coule des narines sous son masque et il aboie plus qu'il ne crie. Et la Sambre coule sereine. Et l'homme se déboutonne et sort son sexe et veut pisser sur le monde, asperger les étoiles et la voûte céleste, et que sa pisse retombe en pluie sur la ville, et alors il verrait qui est le chef. Et on lui parlerait autrement pour sûr, et on lui donnerait du monsieur, et on n'en entendrait plus un moufté, et tout le monde saurait qu'il est quelqu'un, un notable, et on l'habillerait de belles toilettes, et les femmes lui souriraient, et ronronneraient contre ses jambes. Mais il ne parvient qu'à tremper ses souliers et la pierre grasse, et quelques gouttes dans la Sambre qui continue de se foutre de lui. Et ça l'énerve. Alors il tire sur son sexe pour augmenter la pression, parce qu'il voudrait lui montrer à cette maudite rivière de quoi il est capable. Alors il tire sur son sexe plus fort, et c'est comme une larve molle et gélatineuse arrimée à son corps. Et il ignore la douleur et la nausée le reprend. Mais il n'est plus capable de vomir, de même qu'il n'est plus capable de pisser. Il voudrait arracher ce sexe qui ne lui sert plus à rien. Il tire plus fort encore, mais la larve tient bon. Alors le masque halluciné hurle et il se penche vers l'eau sombre sous ses pieds, cette masse silencieuse qui pourrait l'avaler sans un bruit, à peine un plouf que personne n'entendrait. Ces deux globes oculaires au bout de leur fil de fer, les iris noirs et son rictus rouge sombre. Dans sa gorge, il sent quelque chose monter derrière la nausée, et ses yeux commencent à piquer, et ses paupières gonflent. Mais rien ne vient. Alors il lève un bras dans un geste théâtral, et ce bras lourd manque de le déséquilibrer, et il pose un doigt sur son crâne, entre les crins de cheval. Il palpe la dureté de son os occipital. Ça semble si dur, et c'est pourtant si facile à briser. Il sait maintenant à quoi ça ressemble là-dessous. Il avait déjà vu de la cervelle de bœuf. Il en avait même souvent mangé. Mais la cervelle humaine, c'est autre chose. On y trouve des fluides et des couleurs qu'il n'avait pas imaginées. En réalité, il ne s'était jamais vraiment posé la question de ce que pouvait contenir un crâne humain. Il n'avait pas l'esprit scientifique. Et maintenant qu'il le savait, la substance de son existence s'en trouvait modifiée. Et il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas savoir à quoi ressemblait l'intérieur de sa tête. Voici l'homme qui se tient sur le pont de Marcinelle, ce mercredi des cendres, le 25 février 1914, à 5h42. Un masque au bec pointu, aux yeux exorbités, à la bouche béante rouge sombre, le cou et le tricot de corps couverts de sang et de vomi, la quête pendante hors du pantalon, indifférente au souffle glacé de l'aube. Voici Alexandre Glandy.